La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, le Christ, notre frère et notre sauveur. Bienvenue à vous tous dans ce lieu de culte, avec, j'imagine, vos attestations. Vous avez rempli vos petits papiers et nous sommes tous ensemble avec... Alors on n'a plus besoin de petits papiers. Alors voilà, vous voyez comme quoi la confusion a régné un peu pendant quelques heures. Mais là, ça y est, on sait à peu près ce qu'on a à faire. Alors c'est bien. En revanche, si vous êtes à moins de deux chaises d'un autre groupe de personnes qui sont venues ensemble, merci de vous séparer pour que nous respections bien l'écart, parce que la pandémie est réelle, hein, et au-delà de tous ces accommodements que nous avons à faire, il y a réellement un risque pour beaucoup d'entre nous, et notamment les plus fragiles, pour leur santé. Donc merci de respecter cet écart. Nous sommes ici en communion avec tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, que ce soit donc sur YouTube ce matin, sur notre site internet. Nous sommes ensemble, même si cette situation nous éloigne, mais aussi parce que nous sommes ensemble avec d'autres qui sont bien loin de chez nous, dans d'autres pays, et nous les saluons ce matin. Nous saluons tous ceux qui sont loin de l'oratoire du Louvre et en même temps si proches par la pensée et par l'esprit. Nous allons nous recueillir ensemble ce matin dans ce chemin vers Pâques, car nous sommes bien en chemin vers une résurrection, vers un temps extraordinaire que nous allons vivre cette année. Et c'est Agnès à Pâques qui nous conduira dans ce culte de Pâques. Et nous sommes en chemin ensemble. Je vous invite à la prière. Père aux cieux, certes nous te savons partout présent, et si quelqu'un en cet instant peut-être t'invoque de son lit de malade, si quelqu'un du fond de sa détresse en mer crie vers toi, ou de la détresse encore plus profonde de péché, nous te savons bien tout proche pour l'écouter. Mais tu es aussi tout près ici dans ta maison, ici où tes fidèles s'assemblent, plus d'un peut-être évadé de lourdes pensées qu'il fuit, ou avec de lourdes pensées qui le suivent, mais peut-être bien aussi plus d'un venant d'une petite vie tranquille qui se contente de peu, peut-être aussi quelque autre avec l'accomplissement de ses désirs sous le couvert d'un cœur reconnaissant, sous l'enveloppe de riantes pensées. Mais tous, Seigneur, sont venus avec le besoin de te chercher. Ô Dieu, toi l'ami des reconnaissants, dans ta confiance bénie, toi la consolation des faibles dans un dialogue qui réconforte, toi le refuge des angoissés par la secrète douceur de tes baumes, toi le confident de ceux qui pleurent quand tu comptes leurs larmes, toi le dernier au lit de mort quand tu accueilles l'âme du mourant. Laisse-toi trouver avec le don bienfaisant du témoignage pour chacun selon son besoin. Pour le joyeux, qu'il gagne du courage pour bien oser se réjouir avec toi de la bonté de tes dons. Et l'affligé, qu'il gagne de l'assurance pour bien accueillir avec toi tes dons parfaits. Car pour nous autres humains, il y a bien, n'est-ce pas, de la différence en ces choses. La joie et la douleur diffèrent, mais pour toi, ô Dieu, il n'y en a pas. Tout ce qui vient de toi n'est que grâce et don parfait. Amen. Nous nous réunissons dans la prière et c'est David Cassan qui nous accompagne ce matin pour ce culte. Et nous prenons le premier spontané dans les recueils Le Psautier français pour suivre la liturgie. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble.
louons Dieu. Toi qui nous as aimés le premier, ô Dieu, nous parlons de toi comme si tu ne nous avais aimés le premier qu'une seule fois dans le passé. En réalité, c'est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu nous devances. Tu nous as aimés le premier. Si je me lève avant l'aube et tourne vers toi à la même seconde mon âme et ma prière, tu me devances. Tu m'as aimé le premier. Quand je m'écarte des distractions et recueille mon âme pour penser à toi, tu es encore le premier. Pardonne-nous, ô Dieu, notre ingratitude. Ce n'est pas une fois que tu nous as aimés le premier, c'est à chaque instant de notre vie. Et nous vous invitons à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 23. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Ce psaume est dans le psautier français. Prenez place. Écoutons maintenant la volonté de Dieu à notre égard. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'entre le ciel et la terre. De même que la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre et sans l'avoir rendue fertile, il en est de même pour ma parole, ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit de l'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. prions ensemble. Ô Dieu, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. Et c'est à chacun comme un secret que tu les révèles. Et c'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disons « Aie pitié de nous ». Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Dans la seconde lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a confié le ministère de la réconciliation. » Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des hommes. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Chantons à Dieu notre reconnaissance.
Confessons ensemble notre foi. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés en vue de maintenir le monde et de le faire chaque jour nouveau. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour, tout comme lui aussi a besoin de notre amour. Nous croyons que Christ est venu pour aider tout être à porter sa souffrance et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. Il est à nos côtés, que nous soyons ou non capables de le reconnaître, et nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi il a confiance en nous. Il nous a donné son esprit, il nous ressource et nous appelle afin que nous ne restions pas au dehors, mais que nous puissions contempler sa gloire. Nous croyons que Dieu établira un jour sur la terre son royaume, qu'il transforme notre monde et qu'il nous transformera nous-mêmes En vue de ce royaume, il nous appelle à former un peuple nouveau. Et il nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître en tout visage son visage, en tout être et en tout regard, l'image de sa divinité. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire à la vie. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Nous continuons aujourd'hui notre chemin dans le désert, mais nous sommes bien accompagnés puisque nous sommes avec le Christ. Et je vous invite à entendre la suite du récit de Matthieu dans le chapitre 4, à partir du verset 8. Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit « « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et les anges vinrent le servir. Je vous invite à chanter le cantique 214, les strophes 1, 2 et 3 dans les louanges et prières. Nous prions ensemble. Seigneur, bénis notre lecture et notre écoute. Que nos paroles soient inspirées par ton seul désir, Seigneur. Que tu sois en chacun de nous comme une lumière dans nos cœurs. Que ton évangile vienne transformer nos vies. Amen. Devenir le roi du monde, c'est là une ambition que nombre de fictions ont mise en scène dans des récits d'anticipation ou de science-fiction, justement. La troisième provocation que Jésus subit au désert est bel et bien cette tentation peu crédible du point de vue de la faisabilité. Pourtant, quelques figures historiques nous font penser à cet esprit de conquête de territoires toujours plus nombreux, pour installer la domination d'un seul sur tous. Qu'on pense à Alexandre le Grand, à Napoléon ou à Hitler, on s'aperçoit que la réalité dépasse parfois la fiction et que ce désir de domination n'est pas un phénomène exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, mais semble bien être un désir récurrent. Le diable, dans l'évangile de Matthieu, cette figure de division qui assaille le cœur de Jésus, le conduit sur une montagne très haute, assez haute pour que le regard humain embrasse de façon synoptique tous les royaumes de la terre. Matthieu nous propose ici une expérience de pensée. Imaginons un lieu très élevé d'où l'on puisse regarder le monde entier avec tous ses royaumes. Ce point de vue que propose le diable à Jésus est habituellement réservé à un autre qui voit tout simultanément, Dieu lui-même. Le diable propose à Jésus ni plus ni moins que de prendre la place de Dieu. Mais en adoptant ce point de vue englobant, ce ne sont pas seulement les royaumes de la terre qui sont considérés objectivement pour ce qu'ils sont, mais aussi la gloire qui les entoure. Ce que montre le diable à Jésus, c'est la gloire qu'un despote retire de son pouvoir. C'est la représentation du pouvoir en tant qu'il flatte celui qui le détient. Une fois de plus, le diable tend à Jésus le piège de la confusion des rôles. Mais cette fois, il ne prend plus la peine de dire « si tu es le Fils de Dieu », comme il l'a dit les deux premières fois. Après que deux tentatives de corruption ont échoué, il sait maintenant qu'il s'adresse au Fils de Dieu. Et c'est même pour cette raison que cette fois, sa tentation pourrait peut-être fonctionner. En effet, le monde est plein de fils de rois qui veulent tuer le père pour prendre sa place. C'est une des règles principales des dynasties. Si Jésus est Fils de Dieu, s'il a réussi à ne pas se laisser tenter par les deux premières provocations qui visaient d'une part à dévoyer la foi en Dieu pour combler ses désirs personnels et d'autre part à risquer sa vie pour en faire une preuve de Dieu, alors il est prêt pour l'ultime tentation, celle du coup d'État. Renverser le règne de Dieu pour gouverner à sa place. Si la proposition d'être calife à la place du calife était directe, le diable ne pourrait pas espérer un instant réussir à faire plier Jésus. Mais le procédé est plus subtil qu'un simple putsch. Le diable marchande en disant « Si tu tombes à mes pieds pour te prosterner, voilà la condition. » Dans son livre « Le monde comme volonté et comme représentation » que nous avons déjà cité les fois précédentes, le philosophe Arthur Schopenhauer écrit « Considérons le motif général sous lequel se manifeste l'injustice. Elle a deux formes, la violence et la ruse. Au sens moral et pour l'essentiel, c'est tout un. D'abord, si je commets un meurtre, il n'importe que je me serve du poignard ou du poison. Et de même pour toute lésion corporelle. Quant aux autres formes d'injustice, de l'injustice, on peut toujours les ramener à un fait capital. Faire tort à un homme, c'est le contraindre de servir non plus sa propre volonté, mais la mienne. D'agir selon mon vouloir et non le sien. À cet effet, je présente à sa volonté des motifs illusoires, si bien qu'au moment où il croit suivre sa propre volonté, il suit la mienne. La violence ne fait pas pire. On comprend ici ce qu'est la ruse. Le trait que le philosophe a identifié est exactement celui que le récit de Matthieu met en scène dans la troisième tentation au désert. Sous couvert de donner à Jésus le pouvoir sur tous les royaumes de la terre, le diable cherche en fait à le soumettre à son pouvoir. Le prix à payer par Jésus pour être le roi du monde, c'est celui de la liberté même, de sa liberté. C'est celui de son autonomie, de son indépendance, bref, de sa conscience, qu'il faudra qu'il cède au diable. En proposant ce pouvoir sur le monde, le diable propose à Jésus un changement de règne. Et dans ce règne-là, c'est le diable qui est le véritable maître. C'est la ruse qui est la règle. Le terme employé ici pour « se prosterner » est un terme proprement religieux. En fait, il faudrait que Jésus se mette à croire non plus en Dieu, mais au diable, et alors il pourrait espérer exercer sa puissance sur le monde. Mais la vocation du Fils de Dieu est précisément de ne pas être du monde et d'y apporter quelque chose qui vient d'ailleurs, d'un royaume autre que tous les royaumes de la terre, le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, la violence, la ruse et le mensonge n'ont pas de pouvoir. Seule la foi en a un. Quand Jésus montera sur une autre montagne pour y prononcer son sermon, au chapitre suivant, il ne prônera ni la ruse, ni la violence, ni la manipulation de la volonté de l'autre pour obtenir le royaume de Dieu. Au contraire, il parlera de sincérité, d'honnêteté, de réconciliation et d'amour plus fort que la violence. Jésus répond à la provocation du diable en termes religieux, lui aussi. C'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le seul à qui Jésus peut tout remettre, jusqu'à sa vie même, jusqu'à sa propre conscience, c'est Dieu. Et cette confiance-là n'est possible que dans le règne d'un Dieu qui aime l'homme et qui ne cherche pas la ruse avec lui, bien sûr. Le Fils de Dieu est d'un règne où l'Esprit de Dieu régule la volonté et la met au service de l'autre par amour, la convertit en quelque sorte. Dans le règne de Dieu, c'est ainsi. Et dans le règne de la division, et donc dans celui que Matthieu appelle celui du diable, la confiance est impossible, car elle est toujours menacée par le mensonge, la manipulation et l'hypocrisie. Dans ce règne-là, rien n'est gratuit. Tout est sujet de convoitise de la volonté de l'autre pour poursuivre ses propres fins. L'autre est alors un moyen dont je me sers pour mes propres intérêts. Arthur Schopenhauer parle du mensonge en ces termes. Le mensonge a toujours pour but d'agir sur la volonté d'autrui, jamais sur son esprit seul et en lui-même. S'il veut toucher l'esprit, c'est qu'il le prend pour moyen et s'en sert pour déterminer la volonté. Le menteur cherche à amener l'autre là où il veut qu'il aille, nous dit Schopenhauer. Pas seulement par l'esprit, sans qu'il le sache, sans qu'il s'en aperçoive, mais surtout en agissant sur sa volonté. Il pousse l'autre à agir dans un contexte de fausseté et par suite, il le fait chuter. N'est-ce pas la façon d'agir de beaucoup dans ce monde ? Ne sommes-nous pas tous tentés, nous-mêmes, par manque de courage, souvent, par désir d'être aimé, peut-être, par facilité aussi, de travestir la vérité, d'utiliser l'autre comme moyen pour arriver à nos propres fins. L'évangile de Matthieu nous invite à renoncer à ce jeu de dupes qui règne sur notre monde, à nous convertir au règne de Dieu, à crier avec le Christ « Va-t'en, Satan !» Le Christ le redira à Pierre dans d'autres circonstances. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens et des chefs, des prêtres et des spécialistes des Écritures, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des êtres humains. » Pierre préfère sa volonté à la vérité. Et il voudrait que le Christ suive une route qui serve sa volonté d'être disciple d'un maître qui gagne sur les autres. Car si son maître gagne, il sera gagnant avec lui. Mais Jésus a sa propre route à suivre, et il ne la suit pas pour plaire à Pierre, ni pour faire sa volonté. Il la suit au nom d'une parole donnée. À l'exemple de Jésus, dans cette expérience de pensée, il nous faut crier « Va-t'en, Satan !» chaque fois que dans nos cœurs s'insinue la corruption de la conscience, quand la facilité nous séduit et nous détourne de la voie plus juste, lorsque l'exigence est ridiculisée au profit de la négligence, lorsque la vérité si précieuse et si difficile à établir est considéré comme un luxe dont le prix à payer est si élevé qu'il sera plus facile de s'en passer. Chaque fois que la parole se réduit à une représentation de notre seule volonté de pouvoir, il nous faut crier intimement à notre propre conscience « Va-t'en, Satan !» Le cri de la conscience n'est pas une simple indignation dans ce cas. Nous sommes aujourd'hui dans une société marquée par l'indignation. Et ce trait s'est accentué avec la fragilisation sociale qu'a provoquée la situation de pandémie dans laquelle nous sommes. On s'indigne de tout. On se sent offensé, on se sent attaqué. Chaque fois que la volonté de l'autre est en désaccord avec la nôtre et l'on en oublie la vertu de la parole, de l'explication, du dialogue, parfois aussi de la dispute, en tout cas celle que le philosophe appelait la dispute de l'esprit et de la vérité. On veut la paix sans la gagner. On veut en fait avoir raison tout seul. Pourtant, si l'autre n'est pas seulement une image de l'autre, mais un véritable frère en Dieu, si sa parole est la nôtre ont quelque valeur. La seule voie pour comprendre ses raisons et lui expliquer les nôtres, c'est la voie de la parole. Entrer dans le règne de Dieu, construire avec lui le royaume qu'il nous promet, c'est entrer dans le monde de la parole, de l'échange et donc de la confiance. Comment se parler si nous n'avons pas confiance les uns dans les autres ? Malheureusement, il est plus facile de décréter que l'on n'a rien à se dire parce qu'on n'est pas d'accord et de s'indigner dans son coin en laissant s'installer le règne de la défiance, du mensonge et de la peur de l'autre. Mais combien coûteuse est cette attitude pour notre société ? Chacun dans sa posture se fige dans une humanité rigide qui ne tolère plus qu'un autre pense autrement sans vouloir forcément imposer ses vues à tous. Alors reviennent les ligues, les extrémismes, les discours démagogiques, et la seule parole audible est celle qui flatte l'indignation de tous, et plus aucune parole ne fait autorité. Jésus nous rappelle quelle parole fait autorité dans sa vie. Et il nous invite à le suivre. Prosternés devant Dieu, nous pouvons renoncer à ce qui divise les hommes et entrer dans le règne d'une parole qui nous libère. En témoignant des Écritures qu'il cite comme sa propre langue, Jésus nous montre qu'il nous faut être auteurs de nos paroles. Mes frères et sœurs, il nous faut oser être responsable et oser nous confronter aux idées des autres. Avoir le courage d'exposer nos idées, non pas comme des armes pour combattre les autres, mais comme autant de matériaux de construction du royaume de Dieu. Il nous faut nous engager dans le dialogue, sans cesse, dans la controverse constructive, dans le débat d'idées, et sortir de l'indignation qui ne suffit jamais à construire demain. Car si l'indignation peut être un déclencheur d'une lutte pour la justice, et c'est réel, comme le souhaitait Stéphane Hessel quand il écrivait son livre magnifique, l'indignation présente aussi le risque de nous donner l'illusion que nous sommes du bon côté et que nous contemplons le mal comme des juges infaillibles. Filles et fils de Dieu, nous sommes filles et fils de la parole, celle qui libère, celle qui fait rempart à la violence, celle qui fait renaître quand la haine assassine. Notre monde a un besoin immense de parole, donnée, échangée, reçue et tenue, et parfois même criée dans le secret du cœur. Va-t'en, Satan. Car c'est bien à sa propre conscience que Jésus s'adresse dans ce désert. Pas si facile de crier cet ordre à sa propre conscience quand elle vacille sans doute. Dans le récit de Matthieu, pourtant, le Christ n'a besoin de le crier qu'une seule fois pour que le diable le laisse et que les anges se mettent à son service. Prosterné devant Dieu, dans la confiance en sa parole, nous construirons son royaume. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique numéro 229 que David nous a introduit dans sa méditation et qui pourrait être pris comme un cantique de carapace, mais doit être un cantique de foi et de foi aussi en l'autre. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble, c'est un rempart. C'est maintenant le moment de quelques annonces et c'est notre trésorière Juliette Wasson qui va partager avec nous ses annonces. Merci Juliette.
Chers frères et sœurs, bonjour. Merci à vous de votre présence ici à l'Oratoire du Louvre ou devant votre écran à distance. Merci à notre pasteur Béatrice et à la présence aussi d'Agnès pour ce culte de ce matin, accompagné par notre organiste David Cassan. Eh bien, pour l'agenda de la semaine prochaine, les nouvelles mesures sanitaires ne nous empêchent pas de continuer le programme que nous avions envisagé. Donc, demain soir, vous avez donc le cours de grec débutant en Zoom à partir de 19h. Et puis, jeudi, pause spirituelle ici sur place de 12h30 à 13h30. Et puis, nouveau culte dimanche prochain. Voilà. Si aujourd'hui m'incombe de prononcer les annonces, c'est que j'ai un message en qualité de trésorière à vous transmettre. En effet, dans la dernière lettre hebdomadaire que nous vous en transmettons chaque vendredi, nous vous avons annoncé l'émission des reçus fiscaux qui sont consécutifs à l'expression remarquable de nos dons pour l'année 2020 en faveur de l'oratoire du Louvre. Alors, le travail est engagé. Vous savez qu'en tant que même citoyen, nous avons un peu un objectif de zéro papier parmi nos dossiers personnels. Et nous essayons aussi d'y contribuer avec une église verte, petit à petit et pas à pas. Donc, pour la première fois hier, nous avons donc envoyé les reçus fiscaux qui correspondent donc à nos dons à chaque donateur qui dispose d'une adresse électronique dans notre fichier. Donc, ça a été un gros travail conséquent de recollement, en fait, de vos adresses avec vos dons. Ceci dit, donc, il y a 606 reçus fiscaux cette année à vous adresser. Et sur les 606, 146 n'ont pas l'adresse mail. Donc, si vous voulez les faire connaître, je suis à votre disposition. Alors, donc, vous avez dû recevoir hier, entre 14h et 18h30, votre reçu fiscal si vous disposez d'une adresse mail qui est connue de nous. Donc, il est possible que ce message soit tombé dans vos spams ou dans des boîtes aux lettres qui font des tris particuliers. En tout cas, regardez bien. Vous devez y trouver quelque chose. Quoi qu'il en soit, comme c'est notre première fois, on ne voulait pas prendre de risque. Et donc, vous allez recevoir en format papier, comme à l'accoutumée, votre reçu fiscal dans votre boîte aux lettres. Donc, courrier postal. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser, vous pouvez m'écrire à trésorier@oratoiredelouvre.fr ou sinon aujourd'hui, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations à la sortie du temple à la fin de ce culte. Voilà. Écoutez, maintenant c'est le temps de l'offrande.
Alors juste Juliette, excuse-moi.
J'ai encore quelque chose.
J'avais juste quelque chose à rajouter parce que j'ai reçu
aussi
l'annonce.
Quelque chose à ajouter moi.
Oui.
Oui.
Alors
c'est
vas-y.
Dans l'envoi des messages d'hier, nous avions prévu donc de vous transmettre d'abord un message de remerciement au nom du Conseil presbytéral. Ce message a bien été intégré dans la démarche de transmission, mais ça n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre message, vous recevez uniquement en pièce attachée votre reçu fiscal. Donc, dans l'envoi papier qui vous sera fait prochainement, vous trouverez notre mot de remerciement et un mot des pasteurs aussi. Et j'avais autre chose à vous dire, mais c'était que la déclaration de vos revenus pourra se faire en ligne qu'à partir du 8 avril. Donc, d'ici là, vous aurez tous les documents en temps et en heure.
Voilà. Oui, il y a des petits soucis techniques avec le petit message gentil qui avait été mis avec. Donc voilà. Alors aujourd'hui à 17h, nous avons une amie qui est venue chanter ici, qui va chanter à la synagogue Copernic, qui est la synagogue où elle exerce, puisqu'elle est cantor synagogale. Il s'agit de Sofia Falkovic et elle nous invite à un concert virtuel à la synagogue Copernic. Donc sur vos ordinateurs, vous pouvez taper le nom de la synagogue et vous trouverez ce concert. Et sans doute Sofia viendra bientôt avec son époux qui viendra prêcher ici, qui est rabbin de la synagogue Copernic. Donc nous saluons nos amis de la synagogue et nous annonçons ce concert virtuel. Un peu de musique ne fait pas de mal. Merci beaucoup. Voilà, c'est maintenant le moment de l'offrande, oui.
Oui, c'est le temps des offrandes. Donc, écoutez, je vous invite à pratiquer le goût de donner et avec joie de surcroît. Merci beaucoup et très bon dimanche.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remettons aujourd'hui les familles d'Éric Westphal et de Claudine Houlet. Porte-les dans ta consolation, Seigneur, au moment où ils ont perdu un proche. Permets que nous soyons avec ces familles, toujours auprès d'elles. Nous te prions, Seigneur, pour notre monde avec ses divisions, ses communications qui divisent et qui ne portent aucune parole. Ces réseaux qui ne relient personne, alors qu'ils étaient là pour cela. Permets, Seigneur, que nous puissions construire un monde de relations humaines, pacifiées, respectueuses, que nous soyons chacun responsables là où nous sommes des mots que nous disons, des paroles que nous lançons, des appels que nous adressons. Ne nous laisse pas nous enfermer dans notre indignation. Ne nous laisse pas nous enfermer dans notre impuissance ou dans notre peur. Aide-nous à être porteurs d'une parole qui construit, à être porteurs d'une parole qui écoute. Donne-nous, Seigneur, cet amour fraternel que tu nous commandes de vivre et que nous avons tant de mal à trouver dans nos vies. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui font l'effort de la parole, tous ceux qui pensent les discours, qui les construisent pour le bien des autres, ou en tout cas pour la justice qu'ils veulent construire ensemble. Donne-nous, Seigneur, cette intention bonne, ce souci des autres, quand nous-mêmes nous sommes capables de nous exposer. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui sont en attente d'une parole qui les bénisse. Et nous pensons particulièrement à tous ceux qui reportent sans cesse leur mariage, leur baptême, et qui attendent avec impatience de recevoir cette parole qui construit en eux la confiance. Bénis-les, Seigneur, offre-leur toute la patience nécessaire et permets que nous soyons sans cesse à leur côté. Seigneur, évangélise nos paroles. Et ensemble, nous te disons, dans la confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous voilà tranquilles, sortis du désert, avec ces anges qui nous servent comme ils ont servi le Christ. Si nous sommes prosternés devant le Seigneur, alors ils seront avec nous, messagers d'une parole bonne pour ce monde, dont nous pourrons témoigner à notre tour. Allez donc dans ce monde porter une parole qui édifie et qui construit la paix. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde.